Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
On connaît Ambroise Paré, célèbre chirurgien et anatomiste français du XVIe siècle, mais voici un autre nom à retenir, celui de René Geronimo Favaloro, chirurgien cardiovasculaire argentin, particulièrement cher au cœur des chirurgiens de même spécialité car étant à l'origine d'une technique révolutionnaire, aujourd'hui courante, mais qui sauve bien des vies. C'est autour de ce professeur que plusieurs chirurgiens se retrouvent lors d'un congrès à Buenos Aires, puis à la fin de celui-ci dans un chalet confortable en Patagonie, non loin de Ushuaia. Dehors, la tempête fait rage, la chaleur, les alcools, les cigares et ce sentiment d'appartenir à une même discipline, de connaître un même vécu, souvent stressant, des expériences inoubliables, rapprochent et délient les esprits et les langues. Ce sont leurs expériences, justement, certaines difficiles, d'autres cocasses ou dérisoires. Toute formatrice, Steve Glock, a réuni dans cet ouvrage passionnant qui nous fait, comme il le dit lui-même, franchir le quatrième mur. Il s'intitule « Coulisses », sous-titré « Contes hippocratiques » et édité par les éditions Espinès. Yves Glock, bonjour.
Bonjour Monique.
Alors, je vais dire que c'est édité par les éditions
Espinès.
Voilà, merci. Vous êtes professeur de chirurgie cardiovasculaire et vous opériez au CHU de Rangueil. Et voici votre huitième ouvrage, ouvrage qui s'inspire de votre univers professionnel, de votre expérience et de celle de vos collègues. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit la spécialité qui concerne l'organe le plus vital, le plus symbolique, celui qui, on l'a cru longtemps, héberger tous les affects, celui où régnaient vraiment les sentiments? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'aller trancher dans le vif du sujet, si j'ose dire, voire de l'arrêter? Qu'est-ce qui vous a attiré? Il y avait une vocation au départ?
Alors disons que le départ consiste déjà à rentrer en médecine et à franchir les premières années. Ensuite, à mon époque, il fallait être interne des hôpitaux. C'est pour ça qu'il y a quelques chapitres consacrés
oui,
à l'internat.
On en parlera. Qui réveille votre ire.
D'une certaine façon, parce qu'on a enlevé cet obstacle qui était quand même une sélection solide de gens qui étaient motivés. C'était autant les connaissances que la motivation.
Et
quand on était interne, on avait l'option médicale ou chirurgicale déjà. Donc c'était la médecine, mais on avait déjà 7 ans de médecine derrière soi. Ou la chirurgie, et là on avait tout à apprendre. Et en chirurgie, les internes passent en stage à droite, à gauche, dans différentes spécialités. Pour ma part, j'ai fait un an de chirurgie pédiatrique chez les petits-enfants, je suis passé en traumatologie, etc. On se forme petit à petit et au hasard des spécialités et des choix, on a une appétence pour une spécialité parce qu'on a rencontré des gens qui vous donnent envie de la faire, des maîtres. Et c'est ainsi qu'on s'oriente petit à petit vers les possibilités techniques d'apprendre ce métier de chirurgie cardiovasculaire.
On reviendra justement sur cet apprentissage, ce compagnonnage, vous dites, décidément, aujourd'hui, je bafouille. Je voudrais savoir que votre livre commence donc ainsi, vous êtes réunis entre collègues, très loin de la France, en Patagonie, à 20 km d'Ushuaia, à l'abri d'une tempête qui ébranle le chalet, et après le repas, on boit des liqueurs, on évoque des souvenirs, des expériences, tout le monde est détendu. Et ça, chacun se met à évoquer des anecdotes professionnelles. Alors, j'ai ri au départ parce que je me suis dit, oh là là, est-ce qu'il va y avoir des histoires de carabins parce qu'ils ont leur réputation? C'est vrai que parfois, il y a un cynisme apparent, un langage vert, des histoires lestes, voire irrespectueuses. Mais vous expliquez très bien pourquoi.
Oui, disons que j'ai quand même poli un peu le texte.
Il y a quelque chose, certaines choses sont très drôles, on rit quand même. Mais vous expliquez pourquoi il y a justement ce côté qui peut choquer le commun des mortels.
Disons que dans le monde cardiovasculaire et surtout cardiaque, on évolue dans un milieu où il y a toujours l'urgence et où il y a toujours le stress du geste qu'il faut faire parfaitement. Des suites qui sont jamais simples et qui peuvent être très compliquées. et un rythme de travail qui, à l'époque,
intense.
Était lourd. Parce
oui.
qu'à l'heure actuelle, on n'a plus le droit d'opérer si on a opéré la nuit, par exemple. Ce qui remet en cause le programme opératoire du lendemain. C'est la première question qu'on va vous poser s'il y a une affaire médico-légale. Est-ce que vous aviez opéré la veille ?
D'accord.
J'ai connu une époque où quand on opérait toute la nuit, on allait prendre une douche, un café, on recommençait le journal, la journée.
Les règlements
on était fiers
changé.
de ce challenge.
Des opérations de 12 heures, marquez-vous.
C'est des opérations très longues, quelquefois. Oui. Ça prend de toute façon toute une matinée. En général, on commence vers 8h30 l'incision. On a fini des midi et demi, une heure et demie,
oui,
deux
debout,
heures.
Debout,
et puis, si ça ne va pas, ben, il faut remonter. Il arrive qu'on arrive à l'internat pour manger un petit peu. Puis le téléphone sonne.
Et on repart.
Ça saigne. Ou il y a arrêt cardiaque, on remonte en courant.
Ouais.
C'est une ambiance très particulière. C'est un métier que n'ont peut-être pas l'orthopédiste, le chirurgien digestif, vous voyez, c'est une spécialité particulière.
Et on ne voit que l'émergence qui, déjà, bon, on comprend quand même la difficulté, on sait quand même que tout ce qui touche le cœur est grave. Mais effectivement, vous nous faites toucher encore plus du doigt les difficultés et le stress aussi. On va en parler.
Mais...
Pardon, vous aviez dit quelque chose.
Non, pour le choix de la spécialité, il y a aussi le côté un peu magique de la technique.
Ouais.
Parce que, bon, on arrête le cœur, on le répare, on le remet en route. Enfin, c'est-à-dire, j'ai trouvé, moi, qu'au milieu du XXe siècle, c'était assez fantastique de faire ça tous les jours.
Oui. Alors, merci de parler justement de date, parce que dans le fond, la chirurgie cardiaque est une spécialité très récente.
Ouais, c'est pour ça que, après mes contes hippocratiques, je me suis permis de raconter non pas une petite histoire, mais une grande histoire avec un grand H, qui est un peu l'histoire de la conquête du cœur.
Oui, la seconde moitié du XXe siècle.
Quasiment, les années 1900 ont commencé à marquer les débuts d'exploration. Et j'ai cité un chirurgien dont le nom m'échappe maintenant, je crois que c'est... qui écrivait en 1890... que vouloir opérer un cœur humain, ça méritait l'opprobre des confrères, parce que c'était de l'orgueil.
Oui, d'accord.
Et certains autres disaient qu'on ne pourrait pas soigner une plaie du cœur.
Oui.
Donc ils s'étaient trompés, et ils ont eu tort de dire ça, parce que cette phrase est rapportée dans tous les livres d'histoire de la chirurgie cardiaque.
De toute façon, il faut bien commencer.
Ben exactement.
Eh oui. Alors, vous parlez de René Geronimo Favaloro. Pourquoi s'y vénérer en un mot? Parce qu'on n'est pas des spécialistes.
Disons que... dans la chirurgie cardiaque, il y a la chirurgie des valves, la chirurgie des coronaires, la chirurgie des malformations congénitales. Et la chirurgie des coronaires, personne n'osait y toucher avant Favaloro, quasiment.
Oui.
Quand un malade était en infarctus, c'est-à-dire quand une partie du cœur n'était pas vascularisée, on avait une opération qui consistait à prendre une artère du thorax et à l'infiltrer dans le cœur. C'est un Canadien qui avait lancé ça, il s'appelait Winberg. Et cette artère saignait dans l'épaisseur du cœur. Et le cœur a une spécialité particulière dans son tissu, c'est une éponge, à la différence des autres tissus. Donc il boit ce sang, mais le débit est très faible. Favaloro, lui, s'est attaqué à l'artère et à la microchirurgie des artères.
D'accord. Chirurgie des coronaires, c'est ça ?
Voilà. Alors les coronaires, c'est les vaisseaux du cœur.
Oui.
Ils ont une taille qui varie entre 2 mm et 2,5 mm. Et c'est ces vaisseaux que l'on ouvre et sur lesquels on implante. Favaloro décrivait des greffons veineux pour court-circuiter la lésion.
D'accord.
Mais actuellement, on utilise toujours des veines, mais on utilise aussi une artère qui descend dans le thorax, qui est l'artère mammaire.
Quand vous parlez, vous dites 2 mm, 2 mm et demi, on va parler de...
Imaginez une allumette que vous fendez longitudinalement et sur laquelle vous devez coudre un tuyau.
Pas ça, je suis gauchère contrariée, je ferai des malheurs.
Moi, je suis ambidextre, ça m'a rendu service.
Ah oui, ça aide. Alors, c'est une spécialité fascinante et redoutable. Vous le dites, une réussite, c'est la résurrection. Et puis l'échec, c'est la mort sur la table.
Voilà, quand ça ne marche pas,
le verdict est
assez immédiat.
Oui.
C'est le bas débit, c'est le cœur qui ne repart pas. Donc il faut bien peser les indications avant pour être sûr de savoir ce qu'il y a à faire. Chaque opération est différente. Le robot, ce n'est pas la solution pour la chirurgie cardiaque. Bien qu'un certain nombre de nos confrères aient acheté des robots pour la publicité, mais je ne pense pas qu'ils l'utilisent tous les jours. Et ça reste un travail d'artiste, c'est-à-dire que chaque malade est une œuvre unique.
Oui, une sculpture.
Voilà. Dont la pérennité n'a pas celle des toiles de Van Gogh.
Qu'est-ce que... oui, mais enfin, Oui, mais je crois que l'humanité vous remercie. Quel effet cela fait de toucher le cœur, voire de l'arrêter, et puis ensuite de le remettre en marche?
Mais au début, ça paraît fascinant, puis quand on le fait tous les jours, il y a...
Une habitude.
On est toujours fasciné. Surtout quand on le prend, qu'on le luxe, qu'on va travailler dessous, qu'on le remet en place.
Et de le voir rebattre.
Et une fois qu'il a rebattu, il faut regarder la courbe de pression pour voir s'il est capable de travailler correctement, pour qu'on puisse enlever la machine.
Il
y a toute une équipe, vous voyez, je l'ai signalé dans le livre.
On va en parler de l'équipe.
Parce que le chirurgien tout seul, une main devant, une main derrière.
Ma question, c'est quel état d'esprit aviez-vous lors de votre première intervention?
Alors la première intervention, ça a été une appendicite chez un petit bébé.
Parce que j'étais en chirurgie pédiatrique.
Oui, pour le cœur, c'est comme en pilotage, on est en double commande. Et au fur et à mesure des acquisitions, le maître, si j'ose dire, lâche la ficelle jusqu'au moment où il n'est pas là. Quand il n'est pas là, vous avez la chance de signer votre premier compte-rendu opératoire.
Et ce que vous dites, il y a quelque chose qui m'a frappé. Vous dites s'il y a un échec, c'est celui qui a opéré qui doit...
Il assume tout.
Il doit assumer.
C'est-à-dire que les anesthésistes arrivent à se remplacer. Le personnel, au bout de 4-5 heures, leurs horaires sont finis. La fille qui est sur le pont à passer les instruments change. Il y a l'interne qui est en face du chirurgien, son assistant donc. Oui. Et le chirurgien, ils sont là tous les deux jusqu'à la fin. Et puis quand c'est fini, il faut encore aller voir les familles.
Oui. Alors justement, vous parlez de l'importance de l'équipe. On en parlera parce que je pense que même quand vous partez à l'étranger, l'équipe est avec vous. Au quotidien, cette équipe rassemble le narcotique bureau, anesthésistes et infirmiers anesthésistes, les responsables en charge de la quincaillerie, instrumentistes et ponceuses, et les perfusionnistes. Ces derniers ont une grande responsabilité. Ils pilotent et surveillent la pompe mécanique de circulation extracorporelle, dont la fonction temporaire est celle d'un cœur, poumon artificiel de suppléance. Voilà. Alors bon, là vous développez, c'est très intéressant. Moi j'avoue que j'ai été fascinée par ce que vous racontez, parce que loin d'imaginer, effectivement on voit dans certains films, on voit une équipe, etc. Mais chacun a un rôle important et tout doit être...
Là tout le monde a un rôle. L'anesthésiste et le chirurgien sont ensemble. Il y a des cas où il faut ouvrir un malade qui a un épanchement péricardique par exemple. On sait que l'anesthésie peut induire l'arrêt cardiaque. Donc, l'anesthésiste n'endormira pas le malade tant qu'on n'a pas badigeonné et mis les champs opératoires et qu'on est prêt à ouvrir. Parce que si elle l'endort et qu'il y a un arrêt, il faut pouvoir ouvrir tout de suite pour masser et repartir. Vous voyez, donc quand vous avez des difficultés à sortir un cœur de pompe parce qu'il ne génère pas une pression suffisante, c'est la symbiose entre le chirurgien et l'anesthésiste. Parce que c'est eux qui ajustent l'arbre de Noël des 5-6 seringues électriques avec des médicaments qu'on utilise au microgramme près.
Il y a une organisation vraiment...
Et puis, quand le chirurgien est en train de travailler sur le cœur arrêté, il a derrière lui le perfusionniste qui mesure, qui est chargé de refroidir ou réchauffer le malade, maintenir la tension suffisante. Et qui, en symbiose avec l'anesthésiste, qui doit mettre plus ou moins de médicaments pour ouvrir ou fermer les vaisseaux et ajuster la pression pendant que le cœur est arrêté.
C'est très délicat, très complexe.
Disons que c'est très bien rodé. On arrive sur la brisée de tous les maîtres dont j'ai donné les noms à la fin du livre, si vous voulez.
Alors, évidemment, je reviens sur le stress un petit peu, parce que est-ce qu'il peut se manifester après coup? Parce que vous décrivez parfois des situations où il faut réintervenir.
Le stress, il y est un peu tout le temps. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de manger votre faux plat à l'internat à 2h de l'après-midi et qu'on vous appelle en disant qu'on vient de sortir le malade, mais il a fait un arrêt aux soins intensifs, vous montez en courant. Déjà, le stress pour retrouver la salle d'op, voir s'il faut ramener le malade. Les collègues sont en train de masser le cœur. On le ramène au bloc. Il faut téléphoner au bloc pour qu'une salle... Vous voyez l'ambiance?
Oui, la rapidité, efficacité.
C'est particulier.
Oui, tout à fait. Oui.
Et à Rangueil, on a la chance d'avoir les soins intensifs sur le même étage que le bloc opératoire, parce qu'il y a des hôpitaux où le bloc est au deuxième sous-sol et où les soins intensifs sont au cinquième étage.
Oui, ça fait
Nous, on a eu des traversées de couloirs très rapides et qui ont sauvé les malades.
Oui. Alors, vous dites à certains moments, chacun a le souvenir de bourdes, c'est vous qui le dites, qu'il a pu faire. Chacun de nous disait un de nos maîtres à son petit carré de cimetière. Et est-ce que de ce fait, est-ce que ça rend... Parce que je pense que vous avez parlé tout à l'heure de remettre en cœur en marche, c'est valorisant. Mais quand il y a une erreur, est-ce que ça rend pas très modeste?
Ça rend très modeste. Et il faut vraiment être un jeune chirurgien pour se moquer des aînés.
Oui.
Parce que plus on avance, plus on sait que ce qui arrive aux voisins peut vous arriver demain.
Oui, il y avait d'ailleurs, on parlait de certains qui avaient un sentiment de toute puissance et un de ceux qui sont à Ushuaïa dit quelle est la différence entre Dieu et le chirurgien cardiaque.
Ça, c'est une plaisanterie assez usée,
éculée,
bien
peut-être.
Sûr, éculée.
Mais pas dans notre monde.
Voilà.
Alors, il paraît que Dieu ne se prend pas pour un chirurgien cardiaque.
Ils sont tous un peu mégalos, les chirurgiens cardiaques, c'est vrai.
Alors, une histoire à ce propos que j'ai trouvée excellente, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler. Peut-être que non, on risque de ne pas avoir le temps. Je pense quand même qu'il faut avoir une bonne dose d'équilibre pour exercer ce métier.
Il faut un équilibre mental pour rester calme, pour ne pas se glorifier des succès temporaires, parce que quelquefois on a une gifle quand le malade va très bien et que le jour où il sort, il tombe dans le couloir et qu'il est mort. Ça arrive. Hein.
C'est-à-dire qu'on oscille entre l'euphorie,
voilà,
et la dépression.
Et oui, un peu. Et souvent, les chirurgiens cardiaques sont un peu... cyclotimiques. C'est-à-dire que la semaine, vous avez passé la nuit à réparer une dissection aortique qui va bien, qui ne saigne pas, qui se réveille bien. Après trois quarts d'heure d'arrêt circulatoire complet, vous sentez le meilleur du monde. Mmh. Et puis le lendemain, vous pouvez avoir un échec sur une personne jeune que vous n'avez pas prévu. Et ça vous rabat votre caquet.
Et parfois, il y a des miracles. Une vieille dame qui semble perdue, je ne sais plus si c'est vous ou un de vos collègues, doit partir en Italie à un congrès et elle est perdue. Et quand vous revenez, elle est en pleine forme.
C'est là que je vous dis, quelquefois, le chirurgien cardiaque se demande s'il y a une main.
Il y a quelque chose peut-être, hein, quand même.
Mais là, en l'occurrence, ça m'est arrivé et... J'avais déjà écrit la lettre de décès à 5h du matin avant de prendre l'avion pour pas que mon jeune collègue l'écrivain, parce que j'estime qu'il faut assumer tôt. Et quand je suis revenu, la patiente engueulait son mari, elle avait récupéré
elle était
tout
en
à
forme.
Fait bien. Et mon problème, c'était et la lettre.
Récupérer la lettre, oui. Oui, oui. Voilà, oui, mais alors, c'est votre livre est plein d'anecdotes.
Tout ça pour dire que la vie et la mort...
Oui.
Mais
alors, justement,
vous parlez de stress. Le stress, c'est aussi... Quand vous faites une technique parfaite, que le malade ne va pas, c'est peut-être que vous avez sous-estimé le cœur, ou vous ne vous sentez pas en cause directement. C'est peut-être qu'on a posé une mauvaise indication, certes, mais techniquement, on était à la hauteur. Mais il y a des fois où ça saigne et vous ne contrôlez pas. Mmh. Et là, vous savez qu'au bout de 3 litres dans les flacons, le malade est mort.
Oui.
Vous l'avez séché. Ouais. Et là, le stress, il y est parce que il faut contrôler ça tout de suite.
Mmh. Oui, vous dites à un moment donné quelque chose que je trouve important. À un moment donné, vous avez l'impression qu'il y a certains malades qui choisissent entre la vie et la mort.
Disons que ce que j'essayais de dire, c'est que quand on présentait aux malades une intervention comme étant nécessaire, c'est-à-dire vous allez bénéficier d'une intervention, il est content parce qu'on lui a présenté le côté positif. Et je pense que ça donne 2-3% de plus de succès. Quand vous rentrez dans la chambre avec l'air en chiffronné en disant « je ne peux plus rien pour vous, on va vous confier au chirurgien et il faut faire une sanction chirurgicale », c'est pas très bon pour le moral du malade. Et des fois, ça l'aide pas beaucoup. Oui. Parce que le malade fait la moitié du boulot.
Bien sûr.
Quand le travail est fait, le malade, il est au soin intensif, il a une incision de 20 cm sur la poitrine puisque le sternum est scellé en deux. Chaque fois qu'il tousse, ça lui fait mal. Et là, il faut qu'il mette du sien, c'est-à-dire qu'on l'aide, mais bon, il faut qu'il tousse, qu'il crache, qu'il nettoie les poumons, qu'on ne le réintube pas, qu'il bouge bien les jambes, qu'il ne fasse pas de phlébite. Et quand on a un malade coopérant et gonflé à bloc, c'est quand même important.
Bien sûr.
Donc, il fait une partie du boulot.
Voilà. Il y a des choix, finalement. D'une certaine manière, il y a des choix. Parlons des études. Vous parliez tout à l'heure des études pour être chirurgien. Et j'étais très intéressée par le fait qu'en définitive, c'est vrai que c'est un compagnonnage. Les livres ne suffisent pas.
Non, du tout. Du tout.
Bon, les livres, vous avez eu avant.
Alors, il fut une époque où avec l'internat, on avait les livres, bien sûr, mais on était au bloc toute la journée. Et le livre complétait ce qu'on voyait au bloc. Maintenant, ils ont des cours, c'est beaucoup plus structuré.
Oui.
Des cours théoriques.
Des cours
En l'occurrence, pour la spécialité, on organise des collèges. On a des collèges de chirurgie cardiaque. Ces collèges se réunissent au nord et au sud. La réunion des collèges sud se fait à Narbonne, dans le Novotel. Et là, on a les internes, les chefs de clinique qui se destinent à cette spécialité, les patrons et le programme. Et les exposés sont préparés. Alors, on fait les programmes un an ou deux à l'avance et on fait une mise au point sur des sujets bien précis pendant 2 jours. 2 jours non-stop. Ça commence à 8h midi, ça recommence à 2h jusqu'à 7h. Et les exposés sont faits par les internes. Quelquefois, ils sont même filmés pour qu'on leur apprenne à parler en public. Et quelquefois, ils sont en anglais pour leur apprendre à s'exprimer dans les congrès internationaux. Et ça, c'est assez... Enfin, ça, c'est pas nouveau, mais enfin, ça date de 25 ans. On l'a mis en place petit à petit. Moi, j'ai fait partie des membres du collège. Et ça, c'est un plus que je n'avais pas quand j'ai été formé.
Oui, alors parce que vous dites que les études, bon, il y a ce compagnonnage, on apprend avec les patrons, avec des internes, mais ça, même au-delà des frontières, pour apprendre.
Au-delà des frontières, et puis quand une nouvelle technique apparaît, eh bien, il faut se mettre en rapport avec celui qui l'a publié et essayer d'aller voir ce qui se fait.
Ouais.
Alors pour la chirurgie de l'aorte, moi j'avais à l'époque eu une bourse de l'hôpital de Rangueil, enfin du CHU, pour partir avec mon anesthésiste, c'était le docteur Rouget à l'époque, et on est parti 3 semaines à Houston chez Crawford, qui était le pape de la chirurgie de l'aorte. Et pour tout dire, je suis même allé avec dans ma valise des dossiers de malades.
Donc on
a discuté avec Crawford des dossiers, et je l'ai vu faire certaines opérations que j'ai fait en rentrant. De la même façon, M. Carpentier avait décrit une technique de cardiomyoplastie. Je m'étais mis en rapport avec lui parce qu'on voulait lancer ça à Toulouse. Et d'abord, j'ai commencé à aller passer quelques journées à Brousset en chirurgie expérimentale, où j'ai rencontré d'autres collègues, d'autres CHU qui venaient aussi, et on a fait des animaux. Et puis, quand il y avait une cardiomyoplastie à Brousset, on prenait l'avion la veille ou le matin, et j'allais au bloc pour voir comment ils faisaient.
D'accord.
Et puis, quand j'ai eu mes premiers candidats, j'ai envoyé mes dossiers à Carpentier. Et quand on en a vu un qui répondait bien aux critères, Carpentier est venu m'aider pour le premier. Tout ça pour vous dire que
vraiment,
ça
oui,
se fait en symbiose.
Oui, absolument.
C'est très important.
Et une fois,
il y avait la chirurgie du rythme, décrite par un homme de Saint-Louis dans le Missouri. On l'avait contacté et il nous a dit « Mais c'est pas la peine que vous veniez à Saint-Louis, je vais à Monaco. Je ferai l'opération, donc si vous voulez venir. » Vous voyez un peu le...
Oui.
La confraternité.
Oui,
dans notre métier.
Il n'y a pas de rivalité.
Non,
en fait.
Enfin, il y a des rivalités. Quand vous mettez 2 chirurgiens vasculaires cardiaques dans 2 services différents, ils se bouffent le nez. On a vécu ça pendant de nombreuses années à Toulouse. J'ai réuni les 2 services en un seul et ça fait partie de mes succès professionnels. Maintenant, on a un gros service au CHU
oui,
de Toulouse. On était classé numéro 2 au classement du point quand j'ai quitté la boutique en 2017. Donc j'ai laissé la clé du camion à quelqu'un de compétent.
Bravo.
Mais globalement, il n'y a pas de rétention de savoir.
Au contraire,
sauf au sein de certaines institutions où il y a des gens qui sont en compétition. Mais à l'échelle internationale, je ne crois pas.
Oui. Alors, je ne sais pas si dans une salle d'opération, on écoute de la musique. Mais vous souhaitez peut-être pas.
On écoute de la musique. Et pendant longtemps, j'ai travaillé avec un anesthésiste qui, hélas, n'est plus parmi nous. Et on commençait le matin avec la Norma, après l'anesthésie du malade.
Alors là, nous allons écouter Johann Strauss.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Oui, nous retrouvons Yves Glock, professeur de chirurgie cardiovasculaire et qui opérait au CHU de Rangueil. Yves Glock est bien connu des Toulousains et qui écrit, et il écrit son dernier ouvrage, s'intitule « Coulisses », sous-titré « Contes hippocratiques ». Et effectivement, ce sont des contes, mais pas vraiment, ce sont des histoires là, véridiques que se raconte tout un groupe de chirurgiens cardiovasculaires. Voilà. Alors... juste avant, d'écouter Richard Strauss, voilà, je cherchais. On parlait des voyages au-delà des frontières pour apprendre, mais vous aussi, vous êtes parti pour soigner. Et plusieurs de vos livres, d'ailleurs, parlent des pays, Tunisie, la brûlure, c'est en Tunisie, vent contraire, Vietnam, murmure, Palestine. Vous êtes parti pour opérer ?
Oui. Alors, je suis toujours parti. Alors la Tunisie, c'était mon service militaire, donc c'est une expérience professionnelle intéressante que j'ai fait dans un service de brûlure et d'orthopédie, d'où justement la brûlure, le titre et l'histoire. Les autres romans sont nés de voyages que j'ai faits. Alors d'abord, un voyage professionnel, puisque j'étais professeur adjoint à l'université de Sherbrooke pendant un an, au Canada. Au Québec, dans l'Estrie. Les autres sont des missions que j'ai effectuées à droite et à gauche, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Chine, que ce soit
en Palestine,
puis je suis allé en Roumanie, en Algérie, enfin à Gaza.
Oui, vous avez.
Et là, c'est jamais seul, c'est toujours l'équipe.
Avec toute l'équipe.
Parce qu'on a besoin de notre anesthésiste, de notre perfusionniste et de notre instrumentiste.
Et ce sont les mêmes ? Vous avez l'habitude de travailler ensemble ?
Non, les anesthésistes ont changé, les perfusionnistes aussi. L'instrumentiste était toujours la même parce qu'elle était célibataire et elle avait la valise assez
libre
facile,
comme l'air.
Voilà, plutôt. Mais dans le service, le docteur Rooks s'est beaucoup impliqué aussi dans la chaîne de l'espoir. Et c'est en l'honneur du service de Toulouse d'avoir ouvert l'hôpital de Kaboul, l'hôpital de Dakar pédiatrique, l'hôpital de Phnom Penh, par exemple.
Oui.
Et
on faisait venir partait, des enfants.
Il partait,
On a fait venir des enfants à un moment donné, parce qu'on en a reçu.
Vous avez raison. C'est-à-dire que le principe de la chaîne de l'espoir qu'a fondé Alain Deloche, c'était que les enfants arrivent et qu'ils soient pris dans une famille.
C'est ça.
Les équipes toulousaines partaient avec des anesthésistes ou des perfusionnistes et des infirmières différents, mais toujours de la même équipe. Ça fait des souvenirs communs et
ça fait
un ciment dans un bloc. C'est très important.
Oui.
Et pour répondre à votre question, effectivement, on a eu deux sources d'enfants, si j'ose dire. On a eu une source d'enfants qui venait d'une association humanitaire qui avait été montée par une de nos consoeurs, chirurgien cardiaque, professeur de chirurgie cardiaque, parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui sont chirurgiens, professeur de chirurgie cardiaque. Elle est à la retraite maintenant et elle avait monté une association qui faisait venir des enfants du Laos. Et ils ont été opérés dans le satellite de notre propre service d'adultes de Rangueil à l'hôpital d'enfants de Purpan. De même, on a fait venir des enfants aussi de la chaîne de l'espoir, bien sûr. Et on a eu aussi des enfants qui venaient d'Irak. Et là, grâce à Total, qui avait pris en charge un certain nombre d'interventions, un de nos confrères allait les chercher à Amman. Mmh. Donc les enfants étaient transférés de Bagdad à Amman. Et d'Amman, on les ramenait sur Toulouse où ils étaient opérés.
Oui, c'était opéré. Alors, oui, d'ailleurs, ça vous a permis aussi certainement de constater quand même qu'il y avait une différence de niveau de vie. On est chanceux malgré tout.
Ah, ça, je peux vous dire que le français a de la chance, oui.
Et il ne s'en rend pas toujours
compte. Non, il ne s'en rend pas compte.
Oui.
Il ne s'en rend pas compte. Quand on augmente d'un euro la contribution sécurité sociale pour de l'aspirine, il ne se rend pas compte que qui que ce soit en France, s'il a besoin d'un cœur artificiel à 200 000 euros, on va le lui mettre sans se poser de questions. Voilà, mais ça, l'information n'est peut-être pas suffisamment donnée, ou les gens s'en foutent, mais c'est un peu dommage.
On n'en parle pas vraiment.
Voilà.
Et puis, aux heures où les gens écoutent la radio ou la télévision.
Voilà.
Voilà. Alors, moi, je suis épatée par ce travail, le travail qui est impressionnant. Il y a une coordination parfaite entre les membres de l'équipe. Bon, il y a des décisions à prendre et rapides. Chaque fois, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même ce sentiment, il ne faut pas perdre de temps avec le cœur. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, il faut, si le sang coule, bon, il y a des tas de choses. Il y a un temps, j'ai l'impression, qui...
Alors, disons que le cœur, il ne faut pas l'arrêter trop longtemps. Ben, moi, et on l'arrête, mieux il se porte. On a les moyens de le protéger. C'est-à-dire que pour l'arrêter, on le perfuse, soit avec du sang froid, soit du malade, soit avec du sérum froid spécial, c'est la solution de Saint-Thomas, qui le paralyse complètement, ce qu'on appelle la cardioplégie. Mais ça vous laisse un temps de travail. D'accord. C'est-à-dire que toutes les 20 minutes, il ne faut pas que le cœur se réchauffe, il faut le reperfuser. Et c'est sûr que plus on fait de cardioplégie...
Donc on regarde la montre.
On regarde la montre, certains regardent même la température. C'est comme les gigots que vous mettez au four et dans lesquels vous plantez un thermomètre. On a des thermomètres qu'on peut mettre dans le cœur et ils nous donnent la température du myocarde dans l'épaisseur. Ça permet de bien protéger le cœur.
Bon, il y a des techniques donc à maîtriser parfaitement. Et puis moi, c'est toujours cette rapidité d'exécution, justement, à cause du temps. À un moment donné, moi, j'aimerais bien que vous nous lisiez un extrait. La scie à plat. Ça vous ennuie ?
Ah non, du tout, moi. Alors, je vais essayer. La scie à plâtre attaque l'os dans un vrombissement prudent pour trancher le dur sans léser le mou. Le cœur est juste dessous et ne demande qu'à pleurer. La dissection se fait sculpture pour retrouver les structures dans les adhérences. Un travail prudent de démineur permet l'approche de cette masse qui bat et dont la fissure peut être fatale. On réalise le branchement à la machine corps-poumon artificielle destinée à arrêter la pompe cardiaque pour réparer la tuyauterie déficiente. La matinée d'artisans passe comme un éclair à démonter, repérer, calibrer et reconstruire dans la chair pour que la vie revienne. La lésion impose le passage obligé par une courte mort à 18 degrés Celsius de température centrale, arrêt complet de la circulation sanguine qui permet de travailler sur des vaisseaux vides dans une course contre la montre. Au-delà de 45 minutes, le cerveau souffre irrémédiablement. On ne lambine pas. Toutes les 5 minutes, le perfusionniste annonce ce passage trop rapide du temps. On s'accroche aux aiguilles de l'horloge murale pour lutter contre ces secondes qui passent toujours trop vite.
Voilà. Alors, non, vous dites à un moment donné que vous vivez... Les chirurgiens vivent dans un univers surréaliste. Alors, effectivement, il y a le dedans, le dehors, deux mondes très différents.
Oui, ben oui, parce que les gens du dehors, ils vivent leur vie normale. Nous, on a la vie et la mort des autres. C'est un peu particulier. Cette histoire où en arrivant le matin, le chirurgien trouve le malade mort dans un box, toujours accroché à la machine avec un électrocardiogramme plat, mais l'équipe de nuit est en train de prendre le café avec ses biscottes, en disant... Ben, on a une nuit folle. On va d'abord prendre le café. De toute façon, il sera plus rose quand la famille verra. Voilà. C'est un monde surréaliste.
C'est un monde surréaliste, en effet. Alors, il y a l'ultime réparation quand tout se défait. Il y a la transplantation. D'ailleurs, vous n'avez pas parlé du professeur Barnard, dont on avait beaucoup parlé à un moment donné.
Alors, Barnard...
Il a été un peu...
Disons que Barnard est allé voir Chemouet, qui était le père de la transplantation cardiaque.
Ah.
Chemouet a travaillé dès les années 45 sur les transplantations chez le singe, et il a mis au point la technique.
D'accord.
Et à partir du moment où la technique existait, il suffisait de l'appliquer.
Et Barnard,
Barnard était venu, je crois, en Californie pour voir les transplantations rénales. Puis il a jeté un œil sur ce que faisait Chemouet. Puis quand il est rentré, ben, il a fait ce que personne n'osait faire, c'est-à-dire aller prendre un cœur de quelqu'un pour le mettre dans le thorax d'un autre. C'était, en fait, il a franchi le tabou. Après, ça a été l'ouverture, il a osé.
Mais si je comprends bien, dans toutes les techniques de votre métier, à un moment donné, il a fallu oser.
Oui, justement, je raconte notamment l'histoire de Lille Haye, qui est un professeur de Minneapolis, qui, à l'époque où la circulation extracorporelle cœur-poumon ne fonctionnait pas encore, parce qu'il y a eu des échecs cuisants, a osé brancher le père ou la mère sur un enfant, pour que le père et la mère servent de cœur-poumon artificiel pendant qu'on réparait le cœur de l'enfant. Il a fait quand même une centaine de malades, comme ça, dans les années 52-53. C'était le milieu du XXe siècle.
Bien sûr,
c'est pas vieux tout ça.
C'est tout proche,
ouais. Et inutile de vous dire qu'il s'est fait démonter par la presse, parce que c'était 200% de morts.
Ah oui, on le traitait d'assassin quasiment.
Et il est arrivé à retourner l'opinion publique nord-américaine, puisque quand on regarde... Alors, c'est un homme qui a vécu assez longtemps au prix de pas mal de chirurgies, parce qu'il a eu une leucémie, il a été vidé ganglionnaire de haut en bas, il était comme ça, parce qu'il avait le cou ouvert. Cet homme, à 40 ans de recul, a ressorti sa série de 100 malades. Et quand vous regardez la série, ça vous donne le frisson, parce qu'au début, c'était la mère, le père, puis après, il y a eu l'oncle, la tante, puis il y a eu des volontaires. Donc, penser que des volontaires
pour aider,
veuillent bien aider un enfant, c'est pas mal.
Ouais.
Et puis, il y avait des situations dans lesquelles il devait quand même se débrouiller. C'est-à-dire, quand la mère avait un arrêt cardiaque, il fallait masser le cœur de la mère et que l'enfant était mort. Il fallait quand même aller annoncer à la mère que l'enfant
bien
était
sûr.
mort. Et ça, c'est le chirurgien qui le fait. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Et le malheur, un peu, c'est que maintenant, on est tellement coincé par les rigueurs scientifiques. C'est sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais... je pense que ça, les différentes commissions à travers lesquelles doivent passer les essais thérapeutiques sont certainement un frein aux évolutions.
On va peut-être en parler. En tout cas, vous parlez donc de situations ubuesques, par exemple, deux cœurs confondus, mais tout s'arrange en finale. Moi, je ferai référence au livre de Mélisse de Kerangal, qui était à votre place.
Qui est excellent.
Qui était à votre place et que j'avais interviewé en public. Et un de vos confrères s'est élevé dans la salle, il dit « Je dois partir, mais je peux vous dire que tout ce qu'elle dit est vrai. »
Et vous savez pourquoi elle dit tout ce qu'elle dit est vrai?
Son oncle.
Non, c'est son frère.
Son frère? Ah, c'est
son frère. Est chirurgien cardiovasculaire.
D'accord.
Je crois qu'il est installé du côté de Brest. Je ne sais pas s'il fait toujours du cœur, mais il a eu cette formation. Et je pense qu'il a dû relire le livre, parce que ce livre est excellent. Je l'ai lu. Et « Réparer le vivant », c'est tout à fait...
Ce que vous
la séquence de l'annonce à des parents d'un décès d'un jeune, de la nécessité de leur demander, juste au moment où ils apprennent la pire nouvelle qui puisse arriver, si on peut prendre des morceaux de leurs enfants, parce que ce n'est pas le cœur, c'est les morceaux.
Oui.
C'est les cornets, c'est les reins, c'est les poumons, c'est le foie. Ouais. Et c'est des équipes de toute la France. Oui. C'est les rapaces qui fondent sur... mais c'est dans l'intérêt de...
Bien sûr. Alors, juste un mot sur le mandarina, ça aussi, ça m'a fait rire, parce que vous parlez de l'ego de certains, de leur suffisance, la cour qui les accompagne. Est-ce que ça existe encore beaucoup moins, non?
Bon, disons que les mandarins avaient été puissants. À l'heure actuelle, on a une hiérarchie hospitalière qui a basculé. La preuve, c'est qu'on a embauché 60% de personnel en plus, mais c'est quasiment tous des personnels administratifs. Alors on a des commissions, des comités, des ceci, cela. Le mandarin, avant, il était chef chez lui. Il organisait son service comme il voulait. Voilà.
Oui, je crois même
et je crois
que
qu'il
les
faut
travaux
réformer
dans
la
les
médecine,
bâtiments,
parce que
oui.
Je vais vous dire, depuis que le Covid est passé par là, on s'est rendu compte quand même que les mandarins étaient utiles et qu'ils ont repris les rênes pour organiser tout, alors que tout était désorganisé.
Absolument.
Donc ça devrait faire réfléchir à la réorganisation de la médecine.
Je crois
parce qu'un bon mandarin... Ouais. C'est pas mal.
Oui, effectivement, je crois.
Et ceux que j'ai rencontrés étaient de grands bons hommes. C'est le capitaine du navire qui fait de l'enseignement quelquefois à la dure.
Il y a très
un exemple.
Dur même. Hein. Oui.
La personne à qui c'est arrivé, que je connais bien, m'a dit « t'as été gentil avec lui » parce que c'est pas une fois qu'il m'a traité d'assassin ce jour-là, c'est trois fois de suite.
Oui. Ça, c'est dur.
Alors, mais il s'est rattrapé après. Il a expliqué que c'était pour être pédagogique.
Oui, d'accord.
Et oui, mais c'est cet esprit-là qu'on apprend.
Oui, c'est un fait. C'est indélébile, ça. Vous parlez de l'ingratitude des individus opérés, comme des familles, d'ailleurs. Et vous faites allusion à ce que je crois bien être installé en France, c'est le mal américain.
Ben, d'une certaine façon. C'est-à-dire que la loi Kouchner fait apparaître la responsabilité sans faute. Donc c'est toujours un peu douloureux de voir une enquête sur un malade qu'on a soigné du mieux qu'on peut.
Oui.
Alors d'un autre côté aussi, il est peut-être normal que quand il y a une infection nosocomiale, ça rime aussi au fait que, comme il y a une caisse, un fonds commun pour rembourser les gens qui ont eu des indemnités, peut-être qu'ils ont droit aussi à certaines...
Oui, alors vous parlez d'infection nosocomiale. Effectivement, ça arrive fréquemment, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas à tout le monde dans un même secteur. Donc il y a quand même la fragilité de l'individu.
Absolument. On raconte dans ce livre des histoires de personnes qui étaient pourries jusqu'à l'os, c'est-à-dire en insuffisance cardiaque, qui avaient fumé toute leur vie, oui. Qui prenaient la voiture pour aller chercher cigarette, et qui ont des complications justement du fait qu'ils avaient fumé, etc. Oui. Et l'infection nosocomiale, elle ne vient pas par hasard chez cette personne-là qui a son sternum qui s'est rouvert aux soins intensifs, oui. Si vous voulez. Ce malade a rapporté à sa veuve plus que sa vie professionnelle.
Oui, et c'est un fait que c'est une histoire d'argent, ça devient une histoire d'argent. Et vous dites, nos malades ne sont plus des malades, ils sont devenus des clients.
Mais c'est-à-dire qu'on est obligé de faire très attention.
Oui, et même de refuser d'intervenir à certains moments.
Il y a des cas où, quand le risque est trop important, on ne le prend pas.
Ouais.
Ouais. Alors que certains patients le revendiquent, mais on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. D'ailleurs, vous avez vu que pour le Covid, dans les EHPAD, on n'a pas mis les malades en réa, hein.
Non.
Parce qu'on savait que la probabilité qu'une personne de 90 ans soit intubée, ventilée pendant 3 semaines était une mortalité à 100%.
Oui.
Donc il y a un moment donné, il faut rester raisonnable dans l'usage de la médecine. Il ne faut pas oublier non plus le coût d'une journée de soins intensifs. Et on a des malades qui passent 3 mois, quelquefois.
Quel est-il le coût d'une journée de soins intensifs ?
Je ne sais pas exactement, mais ça doit être aux alentours de 3 000 euros, 4 000 euros.
Oui, ça aussi, oui.
Donc les gens ne le savent pas.
Qu'est-ce que ça change dans la mentalité des jeunes médecins ? Parce qu'eux, ils n'ont pas connu autre chose.
Alors, les jeunes médecins, ils ont passé leurs examens et à la fin, ils ont l'examen national classant. Ce n'est pas un concours.
Alors, il n'y a plus d'internat ?
Il n'y a plus d'internat. Si, c'est-à-dire que il y avait les médecins généralistes et il y avait les spécialistes. Les spécialistes, la plupart du temps, ils sortaient quand même de l'internat, parce qu'il y avait ceux qui n'avaient pas eu l'internat, mais qui faisaient quand même une spécialité. C'était souvent les internes qui leur faisaient les cours, d'ailleurs. Et ils n'avaient aucune pratique, parce que c'est les internes qui étaient au chevet du malade.
D'accord.
Et puis, il y avait le tarif des spécialistes et le tarif des généralistes. Et ça, ça créait des problèmes de concurrence. Donc, le gouvernement a décidé que tout le monde serait interne. Les internes, il y a un interne en médecine générale.
C'est
et le
nivellement, pas par forcément par le haut.
Ben c'est, à mon avis, non. C'est pour ça que je parle de fossiles, parce que la plupart des chirurgiens qui étaient autour de la table étaient des gens qui avaient passé l'internat et qui savaient ce que c'était. C'est-à-dire que quand vous passiez l'internat de Toulouse, il y avait 50 postes et vous aviez tous les étudiants qui avaient préparé leur concours de France qui venaient à Toulouse.
Donc ça faisait combien de
candidats ? Ça faisait 1000 types.
Ouais. Ouais.
Et là, il y avait une élite.
Il y avait un sacré écrémage. Hein, ouais.
Et le type qui était interne, quand il rentrait dans le service, il était le même que quand il, la veille, quand il n'était pas interne.
Oui.
Il avait une voie qui s'ouvrait vers lui, etc. Là, ils sont classés. Et alors, moi, j'étais plusieurs fois au jury. C'est un hôtel de 3 étoiles ou de 4 étoiles qui est équipé en ordinateur. Il y a une vingtaine de patrons de toute la France qui corrigent les différentes copies. Elles sont corrigées en double pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ils sont classés du 1er au 6000e en France. Okay. Et en fonction de ça, ils choisissent la ville. Voilà. Alors, les mentalités ont changé. C'est-à-dire que les jeunes internes, moi-même, jeune interne, je n'hésitais pas à demander à des aînés de me laisser leur garde gratuitement pour prendre leur garde. Eux, ils étaient contents parce qu'ils allaient faire un remplacement qui leur rapportait un peu d'argent. Mm-hmm. Mais on avait le désir d'apprendre.
Oui.
À l'heure actuelle, vous ne ferez jamais prendre une garde à un interne s'il n'est pas payé. Ce qui est normal, la vie a changé.
Mais alors, la vie a changé, mais ce que vous dites des jeunes médecins, vous dites maintenant, c'est une cantine d'internat, c'est maintenant une cantine de petits fonctionnaires. Mais j'ai entendu ces propos chez des médecins installés dans des cabinets aussi.
Bah, si ces anciens internes qui sont passés à l'internat, ils ont dû voir ce que c'était. Quand vous étiez 50, 6 pro, mettons, il y avait 4 ans d'internat plus les chefs, ça faisait 5 fois 4, 20, plus les chefs, il y avait 250 personnes qui passaient à l'internat. C'était une petite famille. Il y avait un bizutage, on était intronisés là-dedans. Du jour au lendemain, on faisait partie de la famille.
Oui.
Je pense que le bizutage, s'il reste raisonnable, est une initiation qui vous fait participer à l'équipe. C'est comme dans les tribus primitives. Hein.
Oui.
À partir du moment où vous êtes initié, vous faites partie. Et là, à l'heure actuelle, c'est complètement
nivelé.
On sait qu'à midi, il ne faut pas aller à l'internat parce qu'il y a la queue, ils sont nombreux. Voilà. Oui. À l'internat avant, on avait nos cuistots qui étaient là tout le temps. On avait
Ça fonctionnait très différemment.
Ça fonctionnait différemment, oui. Et l'ambiance était différente.
Bien sûr.
Il y avait des rituels à Paris. Vous ne rentriez pas à l'internat quand tout le monde était en train de manger sans faire le tour et en mettant la main sur les épaules de tout le monde. Et si vous oubliez ça, vous étiez obligé de payer les cigares à tout le monde. Enfin, je veux dire, il y avait des rituels.
Oui, oui.
Ça s'est perdu, tout ça. Alors, peut-être que c'est bien, peut-être que c'est pas bien, je ne sais pas.
Et peut-être
mais
que ça reviendra, sait-on jamais.
Je ne pense pas, parce qu'à partir du moment où vous supprimez une élite et que vous diluez, bah, les gens se désintéressent un peu. Oui.
D'ailleurs, alors, justement,
Il y avait des piliers d'internat, il y avait des jeunes qui vivaient là.
Oui, oui, oui.
Ils passaient leurs 4 ans.
J'en ai connu, effectivement.
Bah, oui,
Et vous parlez aussi du numerus clausus aberrant. Alors, au point qu'on doit faire appel à des étrangers qui n'ont pas forcément le même cursus scolaire.
Alors, déjà, au niveau européen, il y a quand même des pays où, je crois, l'enseignement de la médecine n'est pas aussi bon que chez nous. Et puis, alors, dès qu'on sort de l'Europe, on a quand même beaucoup de pays où... alors, ils viennent se former un peu en France, ils passent des examens d'équivalence. Moi, j'étais à des jurys, vous avez des feuilles, c'est pas écrit en français, on a... Et bon, voilà.
Oui.
Le problème aussi, c'est qu'il faut faire fonctionner nos hôpitaux et on n'en a pas formé assez de médecins. Ça, c'est un drame parce qu'on ne forme pas un médecin du jour au lendemain.
Mais c'est une spécialité française. Ça n'a rien à voir, mais à un moment donné, on ne formait pas assez de pilotes. Et puis, on s'est rendu compte qu'on manquait de pilotes.
Ben voilà.
Ouais.
On n'a pas de l'anticipation.
Oui, donc ça veut dire aussi qu'il faut du temps pour former un médecin.
C'est ça. Un pilote et un médecin, ça ne se forme pas du jour au lendemain.
Bien sûr.
Et un chirurgien cardiaque, c'est encore plus long, parce que vous avez les 6 ans d'études, vous avez les 4 ou 5 ans d'internat, vous avez au moins 3 ans de clinique, faites le compte. Ça fait 12, 13 ans, hein.
Oui.
14 ans.
Oui. Alors, je trouve que votre ouvrage est très complet sur la vie, justement, cette ambiance que vous décrivez. Puis c'est des anecdotes qui sont souvent très drôles. Enfin, et puis cette solidarité qu'il y a entre les personnes, toutes ces équipes et même entre chirurgiens, on le ressent. C'est justement, je dirais à nos auditeurs que c'est très intéressant parce que effectivement, c'est l'envers du décor. Quand on parle d'opération cardiaque, on est inquiet, évidemment, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière comme formation, comme métier, un métier qui est très, très complexe.
Et solidarité aussi, parce que quand vous avez un problème technique, si l'interne est en face, c'est pas... vous appelez un de vos collègues, hein,
oui.
Ou si vous butez sur quelque chose, vous appelez un collègue qui opère pas, qui vient par-dessus les champs, voir ce qui se passe. Il dit qu'est-ce que tu ferais là, parce que regarde ça. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne.
Oui. Alors, il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, mais je me dis que en fait, il y a aussi tous ces chercheurs, ces ingénieurs qui travaillent à créer. Perfectionner des appareils que vous allez utiliser.
Absolument, oui. Et ça, j'en parle dans la deuxième partie, parce que nous, on voit les industriels sous l'angle des nouveaux produits qu'ils développent. On a certains de nos collègues qui participent au développement de certains produits aussi.
Ça, oui.
Je pense au professeur Carpentier qui a fabriqué une valve biologique, par exemple, qui est celle qui est la plus implantée dans le monde maintenant. C'est un chirurgien cardiaque... dont la femme avait travaillé dans la chimie des tissus.
Mmh.
Et le couple a réalisé, si j'ose dire, la bioprothèse qui est implantée partout maintenant.
Mmh.
Il faut savoir aussi que Alexis Carrel, par exemple, était un médecin.
L'homme s'est inconnu.
Voilà, l'homme s'est inconnu, qui on a fait pas mal de griefs après. On a dépaptisé l'université de Lyon, c'est un peu dommage. Mais Alexis Carrel, qu'on n'a pas voulu en France, qui a quand même eu un prix Nobel, a travaillé avec Lindbergh, par exemple. Les gens ne le savent pas, mais Lindbergh était avant tout un ingénieur, accessoirement un pilote.
Oui. Ah,
et il a travaillé sur les perfusions d'organes isolés et sur les transplantations d'organes.
Il se rachetait parce qu'il y avait des prises de position politique.
Il y avait des prises de position après.
Alors, j'ai ri parce que j'ai relevé un proverbe anglais que vous devez connaître. Un chirurgien doit avoir un œil d'aigle, un cœur de lion et une main de femme.
C'est mignon, ça, c'est tout un programme.
Oui,
c'est tout un programme.
Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, un grand merci et bravo de nous avoir fait mieux comprendre, mieux connaître, mieux appréhender ce métier.
Ah bah écoutez, j'espère, et puis je vous remercie de m'avoir invité.
Voilà, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit du dernier roman d'Yves Glock, intitulé « Coulisses » et sous-titré « Conte hippocratique » aux éditions Espiennens. Un grand merci, au revoir.